Voici Mlongo avec le titre Yafeli Mali Yami. Ah oui, non, c'est moi qui envoie le jingle. Ben oui, ben d'habitude, c'est, je regarde mon collègue et il l'envoie. Et cette fois, eh ben, c'est moi qui l'envoie.
Principe actif.
Cette petite radio est ce qu'on appelle une radio libre.
Une radio libre est avant tout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier, d'une ville ou d'une minorité.
Principe actif, 95.9, 102.4.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif.
Et nous sommes toujours en direct, en live et en public de la maison de quartier de la Madeleine à l'occasion de cette journée autour de la santé des femmes, sur lequel d'ailleurs, si vous êtes une femme, une jeune femme, une fille, vous pouvez nous rejoindre, bien entendu. Ouais, c'est un peu exclusif là, hein. Les hommes ne sont pas spécifiquement les bienvenus. Je ne sais pas s'il y a un videur qui les mettra dehors s'ils arrivent, mais en tout cas, ils ne sont pas spécifiquement les bienvenus. C'est une journée consacrée aux femmes, aux filles, aux jeunes femmes. L'exposition, vous pouvez venir la visiter avec le plus grand des plaisirs. Et nous attaquons maintenant ce qu'on appelle le plateau des professionnels. Nous avons avec nous autour de la table... Eh ben ça y est, j'arrive même plus à relire mes notes, mais c'est pas grave, j'allais. Il y a Sabrina qui est sage-femme, il y a Camille qui est médecin, nous avons Marie-Jo du centre santé sexuelle, nous avons Caroline du Caseva et nous avons Margaret du Cégide. Bonjour à vous mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à tout le monde.
Eh ben ça fait plaisir, merci. Ma toute première question comme ça, on est aujourd'hui sur une journée destinée aux femmes de manière générale. Aujourd'hui, on a un plateau exclusivement de femmes. Est-ce que dans vos services, ce sont des services très majoritairement féminins ou c'est pour l'occasion que ce sont des équipes féminines qui se sont dépêchées aujourd'hui sur la maison de la Madeleine ?
Ah.
Voilà. Ah non, elle est pas compliquée celle-là. Alors, je commençais par une question simple, hein. Marie-Jo. Margaret.
En milieu hospitalier, c'est
majoritairement
des femmes qui travaillent. Donc voilà. Et dans nos services, en effet, on est plus nombreuses à y travailler.
Très bien.
Voilà. Alors, en centre de santé sexuelle qui s'appelait autrefois les centres de planification et d'éducation familiale, ce sont essentiellement des professionnels féminines, du coup. Conseillère conjugale, ça c'est mon métier actuel, mais j'étais sage-femme avant. Et là, c'est essentiellement des femmes, même si on a de plus en plus de sages-femmes masculins.
Des mailloticiens, je fais mon malin parce qu'on en a croisé il n'y a pas longtemps.
Ou un sage-femme aussi.
Un sage-femme, on dit.
Oui, oui, on peut dire un sage-femme. Hein, Sabrina, tu me confirmes.
Hein, voilà. Sage-femme.
Donc nous, effectivement, les médecins qui travaillent chez nous en centre de santé sexuelle, maintenant ce sont surtout aussi des femmes à chaque fois. Et là, nous avons Camille à côté de moi qui est aussi médecin au centre de santé sexuelle à Évreux. Et donc Camille, c'est un prénom qui est mixte, mais c'est une femme qui est avec nous.
Très bien. Oui, bah, allez-y, je vous en prie. Alors,
nous, au Caseva, c'est pareil, on est en majorité des femmes, mais on a quand même des médecins hommes. Moi, j'ai des médecins légistes et j'ai à peu près 3 ou 4 médecins hommes qui passent. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes, mais on est surtout beaucoup de femmes.
Très bien.
Pareil en PMI.
En PMI.
PMI, protection maternelle et infantile, ce qui porte plutôt assez mal son nom d'ailleurs, puisqu'on est plutôt un service de prévention. Et on est quasiment exclusivement des femmes à exercer, donc puéricultrice, une médecin d'ailleurs, femme, et la sage-femme, les sages-femmes du territoire. On a eu la chance d'avoir un sage-femme quelques mois et qui est reparti sur un autre département pour des raisons personnelles, mais voilà, on a eu le plaisir d'avoir un homme avec nous à un moment donné.
Margaret.
Et au Cégide, du coup, ce sont des médecins hommes. Il y a eu un renversement depuis quelques mois. En effet, avant, c'était que des médecins femmes et actuellement ce sont des médecins hommes.
Après, de manière globale, en France, depuis quelques années maintenant, les médecins sont de plus en plus des femmes et dans les années à venir, ça va être de plus en plus des femmes. De toutes spécialités confondues, pour le coup.
C'est ça, il y a une formation. Au niveau de la formation, il y a des recrutements féminins beaucoup plus importants.
C'est ça, les personnes qui réalisent des études de médecine sont de plus en plus des femmes. Donc, dans toute spécialité, que ce soit sur de la médecine générale, de la gynécologie, de la pédiatrie, enfin voilà. De manière globale, ce sont plus des femmes à partir de. Enfin, dans les années prochaines, ce sera majoritairement des femmes, en tout cas, que les patientes rencontreront.
sur alors on est sur un projet de santé des femmes. Ça a été une préoccupation. Dorothée nous a fait émerger, enfin nous a raconté qu'il était, il avait émergé un questionnement autour de la santé des femmes qui était un peu moins prise en compte par les femmes que les hommes a priori sur les questions de santé. C'est quelque chose que vous constatez, et comment est-ce que vous, professionnels de la santé, vous intervenez sur sur l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement des femmes?
C'est vrai qu'il y a une égalité en fait de santé de genre qui est connue. Les femmes sont confrontées à cela, bien sûr, par rapport à ce qui avait été dit, par rapport au quotidien, en effet, par rapport à être occupée à prendre soin de son entourage et de sa famille. Et en effet, les femmes ont moins l'accès à la santé, aux soins, aux services, en effet, parce que les choses ne sont pas non plus favorisées telles quelles pour elles, en fait.
Il existe cependant des services, en fait, qui enfin, vous en êtes témoin, en fait, de tous ces services qui fonctionnent, que les femmes peuvent, j'allais dire, visiter ou se saisir de vos compétences pour pouvoir répondre à leurs questions, pour avoir un suivi. Malgré ça, il y a un travail de proximité qui est nécessaire pour rapprocher peut-être le soin des femmes. Alors, je vous en prie, ouais,
c'est vrai que moi j'ai une particularité par rapport à mes collègues, c'est que j'ai un service qui a une précision, qui travaille autour des victimes. À plus de 89%, en fin de compte, dans les victimes qu'on reçoit, si on est sur des violences conjugales, on reçoit des femmes. Ces femmes, alors, elles ne viennent pas ici pour la santé, elles viennent par rapport à des enquêtes, par rapport à tous les partenaires qui sont ici, les réseaux. C'est pour ça aussi que c'est très bien qu'on se retrouve tous ensemble. C'est que chaque réseau, que ce soit CDFF, l'AVED, IDVET, la POUSE, nous adresse aussi ces femmes. Elles passent d'abord par des partenaires qui sont sociaux, et après viennent vers la santé. Donc on est vraiment quand même une branche un petit peu à part. On nous a invités parce que quand on parle de femmes, on parle aussi de violence. C'est quand même quelque chose qui est récurrent, qui est d'actualité et qui l'est de plus en plus. Et maintenant, ces femmes, elles parlent. Et c'est important de savoir qu'il y a des réseaux comme les nôtres, entre autres comme le CASERA qui est sur l'hôpital, qui peut les accueillir.
Justement, sur ces questions, vous venez de le dire, ça parle de plus en plus. C'est un sujet qui arrive très régulièrement, alors soit dans les médias, sur le devant de la scène. On pense à toutes les violences sexuelles qui sont de plus en plus dénoncées, qui sont de plus en plus médiatisées également, qui, je pense, doit donner aussi un exemple pour peut-être des femmes au quotidien, de pouvoir parler aussi des violences subies. Ça participe à libérer la parole. Je pense au MeToo, je pense à toutes les histoires qui arrivent aujourd'hui sur le devant des médias.
Je pense que oui, effectivement, ça participe à libérer cette parole, comme vous dites. Ce qui est important aussi, c'est à nous de se faire connaître, c'est à nous d'être sur ces plateaux, c'est à nous d'aller auprès d'elles, parce que tout le monde n'a pas cet accès à la santé, effectivement. Tout le monde n'a pas, que ce soit financièrement, intellectuellement, tout ce que vous voulez. C'est compliqué, donc si nous, on ne va pas au-devant de tout ça, parfois, ce n'est pas elles qui vont venir. Mais je mets vraiment en place l'importance de dire qu'on est une ressource pour la population aussi. Voilà, ça pourrait être une des choses que je pourrais mettre en avant. Et puis même mes collègues, on travaille tout ensemble.
Ouais, Camille.
Pour compléter, on a parlé des violences sexuelles, mais il n'y a pas que les violences sexuelles. Effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus mentionné dans la presse, même dans les conversations, on va dire, de tous les jours. Mais il y a aussi les violences physiques, les violences psychologiques aussi, qu'on a tendance à sous-estimer, je pense. Et les violences aussi, on va dire, économiques. Une femme, tout à l'heure on parlait du travail, effectivement, le fait d'être indépendant, d'avoir un travail, d'avoir de l'argent, c'est important, parce qu'une femme qui n'a pas les moyens de pouvoir partir de chez elle, parce que effectivement le conjoint elle lui rapporte lui seul, on va dire, l'argent pour la famille, ça c'est important à prendre en compte aussi.
On l'évoquait tout à l'heure, le travail comme un outil de liberté, en fait, très clairement, oui.
Et alors du coup, je voulais revenir aussi, nous en centre de santé sexuelle, en fait nos missions de consultation médicale sont plutôt réservées aux mineurs et aux personnes qui n'ont pas de couverture sociale, mais nous recevons aussi les personnes qui sont sorties d'un parcours de soins et qui ont besoin de reprendre confiance dans le milieu médical, gynécologique, et ça permet déjà de faire un lien pour après. Donc comme Camille travaille aussi à l'hôpital, quand elle vient consulter chez nous, elle fait le lien avec l'hôpital pour après que les femmes puissent continuer leur suivi. Et en fait, nous touchons beaucoup, nous, plutôt les adolescents et les jeunes, en faisant de la prévention dans les écoles pour faire connaître déjà le centre, nos missions, mais surtout échanger avec eux autour de la vie affective et relationnelle, faire de la prévention par rapport au consentement, grossesse non désirée, IST, etc., comme fait aussi Margaret au niveau du Cégide. Et puis bah, Sabrina, au niveau de la PMI, tu vas pouvoir prendre la parole. Toi, c'est par rapport à la grossesse, où tu vas toucher aussi les femmes.
Oui, donc moi, je suis les femmes essentiellement au moment de leur parentalité, en anténatale et en postnatale aussi. Je vais accompagner des femmes qui n'ont pas accès à la santé parce qu'elles n'ont pas de sécurité sociale, parce que du coup, les libéraux ne les reçoivent pas forcément, parce qu'elles sont dans un parcours un peu compliqué, et je vais les aider en fait à organiser leur suivi, à faire en sorte de prendre soin d'elles au moins déjà au moment de la grossesse, parce qu'on sait que c'est une période un peu particulière de vulnérabilité aussi, et je vais essayer aussi de les mettre en lien en fait avec les partenaires pour que elles puissent avoir un suivi global en fait, et qu'elles puissent reprendre leur suivi gynécologique par la suite. Souvent j'insiste sur ça parce que souvent elles voient un gynécologue uniquement au moment de la grossesse, et quand je leur dis et avant et après, rien. Donc soit ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas vu de gynécologue, ou soit elles n'en ont jamais vu de leur vie, si ce n'est pour la grossesse. Et donc c'était l'intérêt aussi des ateliers qu'on a pu animer sur la santé sexuelle. C'était aussi tout ce qui concernait la prévention en matière de gynécologie, donc tous les examens à faire autour du dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein avec les mammographies, etc. C'était intéressant de pouvoir leur apporter ces informations.
Camille, j'avais vu que vous vous empariez du micro. En tant que médecin, vous aviez...
Non, mais c'est justement, en fait, avec Marie-Jo, on a discuté ce midi, en fait, du fait que la santé sexuelle, ça commence très tôt. Finalement, ça commence dès la puberté, donc dès l'enfance. Et ça va jusque tard dans la vie de la femme, puisque la ménopause en fait partie aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser vie sexuelle plutôt jeune femme, mais non, en fait, c'est vraiment de l'enfance, l'adolescence, la vie de femme adulte, et puis par la suite aussi... la ménopause, etc. Donc c'est important de prendre en compte pas que la jeune femme, mais la femme
tout au long de sa vie. Ce que j'entendais dans ce que disait Sabrina, c'est qu'en fait au moment de la grossesse, il y a un passage quasi obligatoire par un suivi médical, et à ce moment-là, pour certaines, c'était l'occasion d'enclencher un parcours médical beaucoup plus large que uniquement celui lié à la grossesse.
Ouais, c'est exactement ça.
C'était un prétexte.
En fait. C'est-à-dire que
Sabrina cherche des prétextes.
un peu prétexte. c'est le moment où on va pouvoir les toucher, parce qu'au moment de la grossesse, elles ne prennent pas soin que d'elles. Elles prennent soin d'abord de leur enfant à naître, et du coup c'est le moment où aussi on peut enclencher des choses pour elles. C'est-à-dire que prendre soin d'elles, c'est aussi prendre soin de son enfant.
Margaret, ouais, j'ai vu que vous étiez emparée du micro. Oui, oui.
Du Cégide, puisque le Cégide, ça ne parle pas. En fait, c'est le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des hépatites des IST, qui se trouve à l'hôpital d'Evreux, au rez-de-chaussée. Et en fait, on travaille très en lien avec nos partenaires, donc le centre de santé sexuelle et puis le CASEVA. En effet, nous, nos chiffres montrent qu'on reçoit beaucoup plus d'hommes, ce qui peut paraître étonnant, mais du coup, ça peut s'expliquer par rapport aussi à ce qu'on propose au Cégide. Donc, on a différentes missions qui sont en lien, en effet, pour le dépistage de toutes les IST, infections sexuellement transmissibles, et aussi des outils de prévention, donc la vaccination en lien avec certaines IST, l'hépatite A, l'hépatite B et le papillomavirus. Et aussi, on peut proposer aussi des outils de prévention avant un risque sexuel, donc qui s'appelle la PrEP. Et en effet, on a principalement des hommes qui se saisissent de cet outil de prévention. Et on a aussi une prévention TPE, qu'on appelle traitement de post-exposition, après avoir eu un risque également. Et ça concerne toute la population. Et nous avons aussi des missions de contraception, mais on va plutôt orienter les jeunes femmes mineures auprès du CSS. Voilà.
Du CSS, c'est-à-dire
Centre de santé sexuelle où travaille Marie-Jo, Camille, et puis en lien avec Sabrina.
Non, c'est parce que je suis un peu moins agile que vous sur les abréviations et les sigles. Même si on l'a une fois, des fois, j'ai besoin de précision. Aujourd'hui, on parle de santé des femmes. Vous l'évoquiez que c'est pas toujours la préoccupation première des femmes, que parfois c'est à travers les enfants qu'il y a une première prise de conscience d'accompagnement sur la santé féminine. Globalement, une femme qui souhaite rentrer dans un processus de soins pour une raison de prévention, pour une raison de soins, ou peu importe, couverture ou pas couverture sociale, comme l'évoquait Sabrina, quelle est la porte d'entrée la plus évidente? Parce que là, on a plusieurs organismes, on se dit, ah bah ça y est, alors on entend bien que vous bossez en relation, mais quelle est la porte qu'on pousse? Une femme qui aujourd'hui avait peut-être perdu lien avec un suivi de santé ou suite à des problématiques, quelle est la première porte à pousser? Quelle est la porte la plus accueillante, j'ai envie de vous dire?
Je pense que ça dépend de la situation. Par exemple, des patientes mineures, c'est vrai qu'on les reçoit facilement au centre de santé sexuelle puisqu'on leur propose des consultations anonymes et gratuites. Donc si jamais une jeune adolescente ou une adolescente ne veut pas en fait que ses parents soient au courant qu'elle a une vie sexuelle active, qu'elle cherche à se protéger, et bien en fait on peut recevoir ces jeunes-là.
Non accompagnées par un adulte ou accompagnées par...
Pas forcément accompagnées par un adulte, et elles peuvent recevoir une contraception sans que les parents le sachent, soit parce qu'on peut leur donner directement une contraception, nous directement suite à la consultation, ou on peut leur prescrire, et avec la pharmacie, en fait, il y a des codes spécifiques qui font que ça n'apparaisse pas sur le relevé en fait, de la sécurité sociale des parents. Donc on a des outils qui permettent en fait que les jeunes s'émancipent de leur santé sexuelle, elles, par rapport à leurs parents, qui parfois n'ont pas toujours la même vision qu'elles. Par la suite, on peut voir aussi au centre de santé sexuelle, du coup, des femmes de tout âge qui n'ont pas forcément de sécurité sociale, et qui, pour le coup, n'auront pas forcément accès à une consultation, on va dire, classique par un médecin, on va dire, en libéral ou à l'hôpital. Et pour le coup, des dames qui vont avoir plus de 18 ans, qui vont avoir une couverture sociale, alors elles peuvent venir au centre de santé sexuelle, mais on va plutôt les orienter vers soit un médecin en libéral ou une sage-femme en libéral, qui peuvent aussi faire du suivi gynécologique, ou alors vers l'hôpital pour des consultations classiques.
Tout le monde peut être accueilli sur un accès aux soins, peu importe la situation, le cadre, l'âge, le statut juridique ou social. Je veux juste éclaircir ça, parce que ça me semble essentiel.
Alors, chez nous, au centre de santé sexuelle, nous dépendons du conseil départemental et notamment du service de PMI. Et à Évreux, nous nous trouvons à la maison du département qui est 11 rue de la Rochette, donc près du commissariat de police, du cinéma. Et donc, c'est un lieu où on peut venir, c'est confidentiel, c'est gratuit. Et même si on sort des fois du cadre de nos missions, on va être là pour orienter les personnes, les accueillir, essayer de comprendre la situation, la demande. Et si on ne peut pas répondre directement, on se met en contact avec notre réseau, les autres professionnels que nous connaissons, et nous orientons. Alors, et je voulais juste dire aussi que nous faisons aussi ce qu'on appelle des entretiens de conseil conjugal et familial. Alors les messieurs, les jeunes adolescents peuvent venir aussi en consultation, les garçons, pour poser des questions sur la sexualité, sur la puberté. Mais c'est vrai qu'on en voit quand même beaucoup moins. Et par rapport au conseil conjugal et familial, c'est aussi l'idée d'accueillir ça fait partie aussi un peu de la santé sexuelle malgré tout, parce qu'on va être amené à parler de la sexualité à un moment donné. Et puis de toute façon, la santé sexuelle fait partie de la santé globale, santé mentale, santé physique, santé sexuelle. Et donc, si ça va pas bien dans un des domaines, ça va avoir des répercussions sur l'autre domaine. Et donc, on est là aussi pour aider dans le soin par rapport à tout ce qui est relations amoureuses, conjugales, etc.
Et le Margaret, centre de dépistage des IST est gratuit. Et en effet, on n'a pas besoin de carte vitale ni de carte mutuelle. Il suffit de prendre rendez-vous simplement, et on reçoit à partir de l'âge de 15 ans et jusqu'à plus de 77 ans.
Eh bien, merci beaucoup à vous, mesdames. On est pris par le temps. Je ne sais pas comment on s'arrange à chaque fois. On commence à l'heure et on se retrouve en retard parce qu'on discute, on échange, on papote. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées par nos micros. Je rappelle que nous avions des professionnels du CIGID, du CASEVA, du Centre de Santé Sexuelle. Nous étions avec Margaret, Caroline, Marie-Jo, Camille et Sabrina. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées par nos micros. Bon, allez, on se fait une petite micro. Non, on pose reportage. Non, on pose reportage, monsieur. Je vois bien, avec mon collègue, on est en train de négocier du bout du doigt. Donc, reportage. Quand j'ai été sur IDVET et que j'ai laissé traîner mes micros, en fait, il y avait une spécialiste du foulard, une spécialiste de la coiffe. Elle est juste devant moi, je la vois. D'ailleurs, vous la reconnaissez. Elle a un magnifique foulard. Nous avons discuté ensemble sur les coiffes en foulard.
Rediff, quoi.
C'est vous la spécialiste des foulards, c'est ça?
Oui.
C'est vous qui faites les coiffes comme ça, c'est ça?
Ouais.
Alors dites-moi tout, c'est quoi cette technique de coiffe? D'où vient-elle cette technique de coiffe?
C'est ma mère qui m'a montré.
D'accord.
Ouais.
Et alors, est-ce que ça vient d'une culture en particulier, d'un pays, d'une région? Ça vient de quelque part en particulier ou pas spécialement?
C'est quelque chose de privé, c'est ma mère qui m'a montré, m'a dit, faut faire des fabriquer ta mode toute seule.
D'accord.
Parce que quoi, j'étais grande, j'étais complexée. J'ai dit, les autres font la main, c'est ma mère m'a dit, non, viens. On sait de faire quelque chose de panne. Moi, j'ai dit, non, maman, ça va appeler à du fait. Mais un jour, ça va être idée pour les autres aussi. C'est ça que j'essaie de faire quelque chose d'original. Moi, ça donne les vies pour les... J'essaie de partir avec les autres aussi. Ouais.
Vous l'aviez repéré, la tenue, avant? Comment ça s'est passé, le choix de la tenue?
Pour moi, des tenues déjà. Comme j'aime la mode, en fait, j'aime déjà de choisir mon tenue. Ça passe avec ça. Les jupes, ça passe avec les baskets. Les vestes, ça passe avec tout. Et ça, avec moi, ça me va bien. Les couleurs, ça, parce que c'était beaucoup avec faire des harmonies, c'est pas les mêmes choses. Voir les goûts aussi, ou bien aussi, c'est pas les mêmes choses. Et moi, j'ai des goûts, j'ai des harmonies, j'ai des goûts de choisir. Quoi, j'adore rester dans la mode, quoi.
Ouais.
Voilà, on avait cet élément autour du foulard pour notre plus grand plaisir. Et là, je l'ai dit il y a quelques instants, on est en retard parce qu'on a pris le temps de discuter. Et toujours, ceux qui pâtissent du temps qu'on a pris en amont, ce sont les artistes. Et là, j'ai un plateau avec trois artistes. Laurent qui a croqué avec sa plume d'ailleurs, le pinceau exactement, les femmes qui venaient se faire dessiner. On en a entendu un extrait tout à l'heure, ça a généré beaucoup de rire. Louise qui a été chercher de la parole, qui a été échangée, discutée. Frédéric qui a intercepté des regards à travers la photo. J'ai une question qui est, j'allais dire générique, non, elle n'est pas générique parce qu'elle va demander de peut-être d'aller un peu plus loin. Comment à travers l'art on fait parler l'intime? Comment à travers l'art on aborde des questions qui ne sortent pas à travers la parole? Ouais, je vous ai gardé une des questions les plus difficiles, hein, vous avez vu. Ouais, tout à l'heure on a reformulé des trucs simples, on a commencé à parler la nourriture, alors quelle est la spécialité culinaire?
On ne va pas parler cher quand même.
Frédéric, normalement, c'est réfléchi depuis très longtemps, cette histoire. Comment est-ce qu'on arrive à faire ressortir l'intime à travers le média artistique? Louise, j'ai vu que tu t'es emparée du micro. Comment toi tu procèdes pour ressortir l'intime? Comment toucher au témoignage?
Moi, je ne sais pas si j'arrive, moi, en tant que personne ou même que art-thérapeute, à faire ressortir l'intime. Ce que je peux dire pour essayer de répondre un petit peu à cette question, c'est que mon travail, en tout cas, c'est de créer un climat. Créer un climat approprié pour que les personnes qui acceptent, avec toute l'humilité, tout le courage et toute la beauté que ça implique, acceptent de me livrer cette parole telle qu'elle se doit d'être donnée, offerte, plutôt comme l'idée d'un cadeau, d'une offrande, et pas d'un interrogatoire ou d'un récit ou de quelque chose qui viendrait trahir la singularité de la personne qui témoigne.
Quand on récolte une parole, on en devient le réceptacle à un moment. Il y a une responsabilité quand même, j'imagine, à soit la rendre publique, soit la valoriser sur un élément ou un autre. Il y a une espèce de responsabilité quand même quand on a fait cette offrande de parole.
Oui, il y en a une, j'imagine. Enfin, en tout cas, je le ressens comme tel. C'est aussi une question de où est-ce que je place le curseur, parce qu'évidemment, c'est une exposition. Donc, des gens vont lire, voir, entendre, regarder, avoir accès à une part d'intimité. Ça, c'est un aspect des choses. Et l'autre aspect des choses, c'est que moi, j'ai passé un moment avec cinq des femmes qui se sont livrées à moi, et tout n'est pas voué à être livré au regard du spectateur. Donc c'est à moi après, en fonction du moment, de comment ça s'est passé, de faire ces choix-là. Et ça, c'est du cas par cas.
Laurent, toi, on l'a entendu tout à l'heure dans un des reportages notamment. Tu as, comme je disais, croqué, tu as dessiné, tu as peint les visages. Comment on vient chercher un bout de, bah, de d'humain, d'âme, je sais pas comment le décrire, à travers le dessin. Comment est-ce que toi tu viens le capter tout ça?
Je dirais qu'il faut surtout pas demander aux personnes de regarder l'objectif ou quoi. Je leur demandais de surtout pas se figer, de pas être là comme si j'allais faire un portrait à l'huile, et plutôt de capturer des instants, des choses éphémères ou spontanées. Et j'aime ça parce que déjà, bah, dans le contexte de l'atelier, on est limité en temps, on a cette période de temps à passer ensemble, mais ça s'arrête à un moment. Donc je ne peux pas faire des portraits de une heure pour chaque personne. J'essaie de capter les belles choses, mais c'est un procédé que j'utilise pour moi et que j'essaie d'appliquer aussi dans l'atelier en leur demandant de faire certains exercices qui sont des choses simples à comprendre, mais difficiles à réaliser et qui vont mettre un peu, pas en difficulté, mais un peu en concentration. Et en fait, ça, je ne vais pas dire que ça fait sortir toute l'intime de la personne et tout, mais en tout cas, ça ouvre un peu la porte pour enlever les premières barrières. Et c'est plus un exercice pour approcher ça, voilà, sans arriver dans l'intime. Je n'ai pas accès à l'intime, mais le fait d'être concentré sur autre chose que tout ce qui nous tourmente tout le temps, ça permet peut-être après...
Ça a généré des discussions en tout cas. C'est-à-dire qu'au moment, la peinture, le fait de se voir, de se reconnaître ou de pas de se reconnaître même des fois, ou de se voir différemment, génère de la discussion. Et ça devient un prétexte en fait, au bout d'un moment, le dessin, pour pouvoir aussi être en échange.
Exactement.
Frédéric, toi, tu étais en portrait photo.
Ouais. Alors moi, du coup,
une série exposée là. Voilà. Pareil, il y a ce côté capter aussi.